Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. On reproche à la médecine moderne d'avoir tendance à saucissonner notre corps, les spécialistes ne s'occupant que d'une partie et délaissant le reste. La médecine globale et intégrative cherche au contraire à soigner les trois aspects de l'être humain, le physique, le psychique et l'énergétique. Alors acupuncture, homéopathie, phytothérapie, chiropratique, ces médecines dites alternatives sont complémentaires et non pas antinomiques de la médecine académique. Elles doivent donc être utilisées conjointement. Nous allons voir comment avec le docteur Luc Baudin, qui est médecin, chercheur, diplômé en cancérologie clinique. Il vient de publier le guide de la médecine globale et intégrative avec comme sous-titre « Toutes les médecines qui vont changer votre vie ». Si vous souhaitez participer, poser une question, appelez-nous au 33 1 56 40 18 22. Cette émission, nous aurons également au téléphone le docteur Laurent Sommet du Burkina Faso qui nous parlera de l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé. Et nous entendrons le témoignage de deux utilisatrices de médecine alternative. Docteur Luc Baudin, bonjour.
Oui, bonjour Madame Hédon.
Vous êtes en direct des studios de France Bleu Roussillon à Perpignan. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme de médecine globale et intégrative ?
Eh bien, tout simplement, comme vous l'avez dit en présentation, c'est une réunion des médecines physiques, psychologiques et énergétiques. Parce que pendant des années, j'ai étudié bien sûr la médecine conventionnelle, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, les médecines dites douces et que j'appelle complémentaires, acupuncture, homéopathie. Après ça, j'ai vu au point de vue psychologie, il y avait beaucoup de chercheurs qui découvrent des choses étonnantes au point de vue de l'action du psychisme sur le corps. Et enfin, le point de vue énergétique, donné comme avec la médecine traditionnelle chinoise, mais beaucoup d'autres choses, montre l'effet de cette médecine-là sur le corps. Or, chacun était dans son camp et campait un petit peu sur ses positions et considérait qu'il avait la vérité. Or, en fin de compte, la vérité, s'il y en a une, est dans la réunion de tout ça et dans l'union de tout ça. Et justement, au travers de ce livre, je montre comment les trois aspects de l'être humain fonctionne en complète corrélation, en complète harmonie.
Avez-vous l'impression que ce dialogue, justement, entre ces deux formes de médecine s'améliore ?
Oui, tout à fait. Je le pense sincèrement. Je l'ai vu quand j'étais à Villejuif. J'avais eu l'occasion d'en discuter longtemps avec les médecins.
C'est-à-dire dans un service de cancérologie.
En cancérologie, voilà, qui était un service vraiment de pointe en cancérologie en France. Et les cancérologues eux-mêmes me le disaient. Ils me disent, mais ce que tu fais est très bien. On est tout à fait d'accord. Nous n'avons pas le temps de nous en occuper parce qu'ils sont spécialisés. Ils sont tellement pris dans leur travail. Mais nous sommes tout à fait d'accord pour augmenter un petit peu ce point de vue. Et d'ailleurs, c'est ce qui se rejoint aussi au niveau du cancéropole de Toulouse qui est en train de se monter. On est en train de monter aussi un aspect plus humain, parce que l'aspect médical et technique est important, mais l'aspect humain de la personne est très très important également.
Alors on va essayer de mieux comprendre ces médecines complémentaires, que vous appelez complémentaires, justement pas alternatives. Oui. Vous mettez l'accent sur l'énergie. Alors de quoi s'agit-il exactement ? On a du mal à comprendre ce phénomène.
L'énergie, c'est vrai que c'est toujours un mot difficile parce que j'ai cherché pour en écrivant ce livre la définition de l'énergie d'une manière générale et en fin de compte, la seule définition, c'est qui produit un travail. Alors ça va pas très loin. Ça va pas chercher très loin, non, on n'est pas. Alors bon, pour vous approcher, on a plusieurs approches déjà. Il y a l'approche objective, scientifique. Donc on peut déjà savoir que l'électroencéphalogramme, l'électrocardiogramme qui étudie le cerveau et le cœur et analyse les énergies électromagnétiques, électriques surtout, du corps et du cœur et du cerveau. Le neurone utilise l'électricité. Chaque cellule est une petite pile électrique. Donc déjà, on voit qu'il y a une notion électrique dans le corps humain et qui est très importante et qui peut être une analogie avec la batterie des voitures. Donc on a besoin de l'essence pour faire rouler la voiture, on a besoin de l'alimentation pour faire marcher notre corps, mais on a besoin aussi de l'électricité.
Alors il y a des médecines traditionnelles, je pense entre autres à la médecine traditionnelle chinoise, à l'acupuncture, qui font déjà référence à ces notions d'énergie.
Voilà, vous touchez l'autre aspect des choses qui est très intéressante, c'est l'aspect, je dirais, moins objectivable. Déjà, l'acupuncture est un petit peu objectivée grâce à des études qui ont été faites. On a des appareils maintenant qui nous permettent de détecter les points d'acupuncture sur le corps. Donc ça montre bien que le point d'acupuncture a une spécificité énergétique. énergétique. On a aussi, en injectant certains produits radioactifs, permis de voir que le produit se dispersait en suivant le trajet du méridien. Donc, on a déjà quelques des choses objectives là-dessus. Mais on peut aller encore plus loin. Il y a la notion, découverte par les Indiens, avec leur médecine traditionnelle, avec les corps énergétiques. Alors là, on en tombe dans le phénomène non plus objectif, mais plutôt intuitif et du ressenti.
Et alors, c'est quoi ces corps énergétiques ?
Alors, les corps énergétiques, ce sont des enveloppes qui nous entourent, en fait, et qui sont... Notre corps physique est un corps énergétique, mais qui vibre d'une manière la plus lente, qui permet de... C'est ça qui fait qu'on est... On les voit, on le voit, on le sent au niveau de notre toucher, de nos yeux. Et puis, à chaque fois, il y a 7 corps énergétiques autour de nous. Et c'est à chaque fois qu'on passe d'un corps à l'autre, on tombe dans le domaine du plus subtil. Alors, il y a le corps vital, qui est de première couche, qui est constitué du corps énergétique et du corps astral, qui est vraiment notre réserve énergétique. Après ça, il y a le corps mental, qui est formé de 2 couches, et le corps spirituel, qui est lui-même formé de 2 couches. Donc, si vous voulez, on retombe sur les 7 couches de la tradition chinoise, ou de la tradition indienne, pardon. Et ce qui est amusant, c'est qu'on ne peut pas les ressentir, on ne peut pas les toucher,
On ne peut pas les voir non plus.
On ne peut pas les voir, excusez-moi. On ne peut pas les voir, mais on peut les ressentir. Et quand je fais des séminaires sur ces notions-là, toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, sont capables, en l'espace de quelques minutes, de ressentir les corps énergétiques.
Mais on est sûr de l'existence de ces corps énergétiques ?
Pour moi, c'est une vérité absolue parce que, comme je viens de vous le dire, cette preuve par rapport au ressenti des personnes, tout le monde est capable de le faire, de le sentir. Il suffit que quelqu'un simplement l'indique. Les premiers examens qui avaient été faits, les premières études avaient été faites par M. Kirlian. Vous avez entendu parler des photos Kirlian qui montraient, elles, plutôt la première couche du décor énergétique qui sont plus au corps éthérique, où se concentre notre énergie. Après ça, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites par les savants russes pendant la guerre froide et aussi dans le domaine de la recherche spatiale.
Aujourd'hui, nous parlons de la médecine globale et intégrative qui cherche à soigner les 3 aspects de l'être humain, le physique, le psychique et l'énergétique. Alors, on a voulu comprendre pourquoi des personnes choisissent de se tourner vers les médecines alternatives. Viviane Le Guen est allée rencontrer Julia. Je vous propose de l'écouter.
Mes parents, en fait, dès mon enfance, m'ont soignée à l'homéopathie. Et donc ça, depuis 28 ans, c'est vrai que j'utilise l'homéopathie pour pas mal de choses, que ce soit l'herpès, l'aphte, les allergies. Donc pour ça marche vraiment très très bien aussi. Ils m'ont soigné quand j'étais petite pour des otites, ça marchait aussi très bien. Après, tout ce qui est, par exemple, j'ai du cholestérol et j'ai fait... mon homéopathe voulait me soigner avec de l'homéopathie et ça n'a pas marché, quoi. J'ai fait 3 ans d'homéopathie et à la fin des 3 ans, j'étais mais j'en peux plus, ça n'a pas descendu. Voilà, donc c'est vrai que c'est pour certaines maladies, on peut soigner avec l'homéopathie, pas toutes, mais il y en a qui s'avèrent vraiment très très efficaces, quoi. Concernant l'allergie, on m'avait conseillé d'aller voir un acupuncteur. On m'avait dit, vous serez complètement décontracté, et comme si tout coule en vous et tout ça, où les aiguilles font vraiment un effet vraiment miracle, enfin, entre guillemets. Mais c'est vrai que moi, ça a été plus piquant, voire boursouflé, qu'un truc vraiment qui décontracte et qui apaise et qui soit efficace. Donc par rapport à l'acupuncteur, j'étais un peu déçue et je ne suis jamais retournée en fait.
Docteur Luc Baudin, je voudrais avoir votre réaction à ce témoignage de Julia.
Il est double en fait, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup insisté sur la notion qu'on ne peut pas tout soigner avec une médecine. Donc la médecine homéopathique que je pratique est une médecine extraordinaire en traitement de fond, par exemple sur les allergies, est vraiment extraordinaire. Par contre, si vous avez une crise allergique, il y a quelques remèdes en homéopathie, mais une grosse crise comme un œdème de Quincke ou une énergie importante, il vaudra mieux recourir à l'allopathie pour la calmer. Donc si vous voulez, ça montre un petit peu la complémentarité des deux. Et pour là encore, elle a comparé l'homéopathie, l'acupuncture qu'elle a utilisée. Donc ça montre aussi que chacun n'est pas fait pour utiliser toutes les thérapies. Il y a des personnes qui seront plus enclines à utiliser l'acupuncture et ça, chez qui ça va marcher très bien. Il y a d'autres, ce sera plus l'homéopathie. Et donc après ça, pour les allergies, il y a d'autres aspects comme la méthode Naët ou comme l'EFT qui peuvent être des techniques complémentaires, là encore, pour calmer les allergènes.
L'EFT, vous parlez de quoi?
C'est l'Emotional Freedom Technique. C'est une technique qui est un peu dérivée de l'acupuncture, qui permet pour toutes les personnes de tapoter certains points du visage en se concentrant sur leurs problèmes. Et c'est remarquablement efficace.
Priorité santé, Claire Hédon.
Aujourd'hui, je reçois le docteur Luc Baudin qui vient de publier le guide de la médecine globale et intégrative aux éditions Albin Michel. Et je propose maintenant d'écouter Marie-Pierre. Elle nous explique pourquoi elle s'est tournée vers les médecines dites alternatives. C'est au micro de Viviane Le Guen.
Alors, je me suis tournée vers les médecines douces après la naissance de mon premier enfant. Enfin, elle avait 18 mois et ça faisait déjà presque une année qu'on la soignait avec des médecines classiques pour des rhinos, pour des otites. À répétition importante, et elle avait déjà eu une ou deux parasynthèses. Et là, quand on a vu la souffrance qu'elle pouvait traverser à ce moment-là, on en a parlé autour de nous. Et puis, des amis nous ont conseillé un médecin homéopathe. Et on est allé le voir. Et à partir de ce moment-là, on n'a jamais eu recours ni aux antibiotiques, ni aux parasynthèses, ni à des médecines difficiles. Et on a élevé notre enfant qui a maintenant 28 ans. Elle a pratiquement jamais pris d'antibiotiques de sa vie. Elle a ensuite eu ses maladies infantiles comme tous les autres enfants. Elle a même eu la scarlatine à 2 ans et demi et on ne l'a jamais soignée autrement qu'avec des granules. Et on ne peut pas imaginer la puissance qu'il y a dans ces petites granules de rien du tout que les enfants prennent très facilement. Et donc moi, je suis très convaincue. En tout cas, ça a marché en tout cas pour cet enfant-là. C'est une médecine qui ne marche pas systématiquement pour tout le monde. Donc on a eu 3 enfants, on a eu un deuxième enfant qu'on a commencé à soigner comme ça. Et puis, bon, il s'est avéré que pour lui, c'était parfois plus grave et qu'il fallait avoir recours à autre chose. Donc il faut être à l'écoute de chacun. Mais c'est une médecine, l'homéopathie, qui nous entraîne à avoir beaucoup plus d'attention à l'individu. J'ai aussi rencontré l'acupuncture pour moi. Je me soignais l'homéopathie, mais j'ai eu un jour une terrible sinusite que je ne pouvais pas résoudre, ni avec d'abord l'homéopathie. Ensuite, j'ai été voir le médecin et j'ai eu des antibiotiques. Et ça faisait 3 semaines que je ne pouvais pas respirer, que je souffrais terriblement. Et en parlant avec une amie qui connaissait un acupuncteur, je suis allée le voir et en une séance, j'étais soignée. La médecine douce, je pense qu'il s'appuie sur un entretien qui est toujours approfondi du patient. Et ça me convient.
Donc la médecine douce, c'est l'histoire d'une rencontre aussi.
Oui, pour moi, c'est l'histoire d'une rencontre, oui. Mais c'est pas que ça, parce que c'est pas du placebo. Si on donne une granule qui ne va pas, qui n'est pas adaptée, on se soigne pas. Par contre, il n'y a pas d'effet secondaire. Alors que quand on prend un médicament qui n'est pas adapté, on peut avoir un ulcère à l'estomac, on peut avoir des vertiges. Donc c'est à la fois une rencontre, c'est à la fois une confiance, parce que c'est une médecine qui est moins connue. Donc il faut effectivement avoir confiance. Mais c'est pas que ça. C'est quand une fois qu'on la pratique, on s'aperçoit qu'elle est efficace.
C'est complémentaire donc d'une prise en charge médicamenteuse, selon vous?
C'est 2 choses différentes. Moi, je me soigne pratiquement, je prends pratiquement jamais de médicaments. Ça m'arrive de prendre des médicaments pour un mal de tête qui est brutal, je suis au travail, j'ai pas le temps de faire quelque chose. Mais dans la famille, on essaie de pratiquer plutôt les massages. Hein. Quand on a un mal de tête, on se caresse le front mutuellement, ou on essaie de se faire un massage de pied, ou on pratique la méditation, on fait des choses plus douces. On essaie de pas fonctionner avec l'allopathie.
Docteur Luc Baudin, Marie-Pierre l'a bien dit, dans ces médecines douces, médecines alternatives, manifestement on passe plus de temps avec le médecin, ou le médecin passe plus de temps en l'occurrence avec le patient, il y a des entretiens approfondis. Est-ce que c'est ça une partie de la réussite, une partie du succès?
Oui, tout à fait, parce que là, c'est vraiment du bonheur pour moi d'exercer cette médecine-là, parce que d'abord, la personne se sent entendue, comprise, on étudie tous les aspects, parce que, comme, par exemple, quand vous avez une allergie, s'il y a souvent des problèmes digestifs qui vont être associés, il peut y avoir d'autres maladies qui viennent cycliquement et qu'il est intéressant de connaître parce que ça peut expliquer une partie du problème de l'allergie. Donc, la personne raconte vraiment son histoire, ce qui est remarquable pour elle parce qu'elle a vraiment l'impression d'être comprise et c'est très intéressant pour le médecin parce qu'on soigne vraiment la personne dans sa globalité.
Alors justement, docteur Luc Baudin, vous l'avez bien dit, hein, dans cette médecine globale, vous cherchez à soigner les trois aspects de l'être humain, le physique, le psychique et l'énergétique. Alors on a déjà parlé d'énergétique, on va s'intéresser un peu plus au psychique justement. On a Issa qui nous appelle de Bamako au Mali qui a une question à vous poser dans ce domaine. Issa, bonjour.
Bonjour Pierre-Jean.
Nous vous écoutons.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Bonjour. Moi, je voudrais savoir. Issa de Bamako. Issa Kanouté de Bamako. Et moi, je voudrais savoir si le rôle des psychologues dans la médecine globale aujourd'hui. Parce qu'on n'étudie pas la psychologie, même si on étudie la psychologie dans la médecine classique, mais dans d'autres filières, on étudie la psychologie. Est-ce que les psychologues d'aujourd'hui sont des médecins ou bien...
Et à quoi ça sert, hein? C'est un peu ça votre question. Les psychologues, à quoi ça sert? Alors, docteur Luc Baudin, à quoi ça sert de se pencher sur notre psy?
Déjà, pour moi, c'est le psychologique englobe également ce que j'appelle la spiritualité, ce qui est toujours une notion, c'est ma vision à moi personnellement, parce que je considère que Freud a raison par rapport à tous les problèmes par rapport à la sexualité, mais je considère aussi que l'être humain est aussi un être élevé, donc le côté de la relation des pensées un peu plus élevée est importante, et quand on croit à quelque chose, quel que soit ce à quoi on croit, ça va influencer beaucoup notre psychisme et notre vision de la vie. Donc, pour revenir à la question plus précisément, il y a le psychiatre qui va être plutôt un médecin qui va délivrer malheureusement surtout des médicaments, mais quand même, il y en a beaucoup encore qui font de la psychologie, des psychothérapies ou des psychanalyses également, pour approfondir, rechercher la cause des problèmes. Après ça, les psychologues ont des formations plus spécifiques qui permettent aussi de travailler sur les conflits, les sources, retrouver les sources d'invasion. Vous avez une peur, je ne sais pas, j'avais une personne qui avait une peur d'aller sur les autoroutes. Il faut essayer de retrouver, de conduire sur une autoroute. Alors, il fallait retrouver un petit peu son origine, l'origine de cette peur et l'aider à surmonter cette peur. Donc ça, c'est le travail de la psychothérapie. Mais maintenant, il y a aussi deux nouvelles techniques qui sont mises au point et que j'aime beaucoup aussi. Donc je vous ai parlé déjà un petit peu de l'EFT qui est une médecine très directe. Il y a la PNL, la programmation neuro-linguistique, qui est vraiment une technique qui permet de décortiquer la pensée humaine et de permettre aux personnes de retrouver très rapidement la source et de trouver surtout leurs ressources et les moyens de surmonter leurs soucis. Il y a le travail aussi sur les peurs, sur les angoisses, sur les croyances, qui sont des travaux extrêmement importants parce que ça permet à chaque être humain de continuer d'évoluer et d'enlever ses chaînes, en fin de compte, les boulets qu'on traîne tous aux pieds.
Et si je vous comprends bien aussi, le fait de ne pas aller bien dans sa tête, d'avoir quelques problèmes psychiques, peut avoir un impact sur notre physique?
Directement. Déjà, tout simplement, sans chercher plus loin, on connaît bien la psychosomatique, c'est-à-dire que quand on a un stress, c'est capable de provoquer des ulcères d'estomac. Bon, maintenant, ça se rencontre moins, mais ça se voyait pendant un certain temps. Donc, ça montre bien comment les pensées négatives, je dirais, peuvent agir sur notre physique. Après ça, il y a aussi le placebo, moi, que je trouve extraordinaire. C'est ce que quand on sait déjà un effet placebo, c'est 30% de tous les médicaments, de l'effet de tous les médicaments, de toutes les thérapies.
C'est-à-dire, si on vous dit ça va vous guérir, déjà grande partie du travail est fait. Docteur Luc Baudin, on se retrouve après les informations, hein, donc toujours pour parler de cette médecine globale et intégrative. Nous aurons également au téléphone le docteur Laurent Sommet du Burkina Faso qui nous parlera de l'intégration de la médecine traditionnelle dans le système de santé. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22.
La monoculture.